Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou au micro de Mustapha Mamansani de la radio Gaskia Zender, une des radios partenaires du studio Kalangou dans la ville de Zender. Le forum, c'est un rappel, est diffusé via un réseau dynamique de 46 radios partenaires à travers le Niger. À Zender, vous écoutez ce forum sur les ondes de la radio Gaskia 89.5 MHz et la radio Choukoura sur le 105.5 MHz. Le forum d'aujourd'hui a pour thème les enjeux socio-économiques de la commercialisation des hydrocarbures dans la ville de Zender. Nous allons voir d'abord l'institutionnalisation de la vente des hydrocarbures, ensuite les risques liés à la fraude des hydrocarbures par les jeunes et enfin les effets de la fraude sur le fonctionnement des services publics et sur le développement local. Pour ce faire, nous avons invité Dr Issa Issoufou, il est sociologue, il est expert des questions de la vente des hydrocarbures à Zender. Nous avons invité également M. Sadat Iliada Malam, il est acteur de la société civile, coordonnateur régional du mouvement patriotique pour la citoyenneté responsable MPCR de Zender. Nous avons également mené des démarches pour la participation de la direction régionale des douanes, de la direction régionale de pétrole et de la SONIDEP, mais aucun des responsables n'a donné suite à notre demande, raison pour laquelle nous tenons ce forum sans ces personnes qui auraient pu nous donner plus d'informations. La vente des hydrocarbures fait partie des grandes activités qui embauchent plus de jeunes dans la ville de Zender, malgré les risques liés à la transaction de ce produit. Néanmoins, force est aussi de constater que cette frauduleuse activité est un palliatif pour l'insertion socio-économique d'une jeunesse nombreuse et désœuvrée. Docteur, nous commençons par vous. Quelle est l'origine de cette activité de fraude et de vente informelle d'hydrocarbures à Zender et au Niger de manière générale ?
L'histoire de la fraude des hydrocarbures au Niger aussi entre l'informel et le formel. Depuis l'indépendance, la commercialisation des hydrocarbures était essentiellement accordée aux ce qu'on appelle des sociétés privées. Les sociétés privées, ce sont les individus et des personnes qui ont des sociétés à qui l'État donnait l'autorisation d'importation des hydrocarbures via Cotonou, souvent via Togo et surtout via le Nigeria. Ces sociétés-là ravitaillaient effectivement les sociétés privées et l'État jusqu'à 1977 où la SONIDEP a été créée. C'est en ce moment-là que le monopole de cette commercialisation a été effectivement confié à cette société-là. Mais même avec la création de la SONIDEP, les choses n'étaient pas tout à fait faciles parce que la SONIDEP devrait en principe assurer l'importation, la commercialisation, la distribution et même la vente au niveau des consommateurs finaux. Mais compte tenu de certains problèmes, parce qu'entre-temps, il y avait l'ingérence de l'État dedans, on fait ce qu'on appelle le prélèvement autoritaire. Il y a eu des difficultés dans la question de gestion. Maintenant, la SONIDEP elle-même a fait recours à ce qu'on appelle licence d'importation SONIDEP. Ce sont des licences que SONIDEP elle-même donnait à des particuliers pour aller se ravitailler au niveau de Cotonou et au niveau surtout du Nigeria. Parce que dans les années 80, je crois qu'il y a eu des difficultés de ravitaillement entre la SONIDEP et le Nigeria. Parce que tout simplement, le Nigeria avait exigé ce qu'on appelle le paiement en dollars. Donc la SONIDEP avait réquisitionné, si vous voulez, certains commerçants qui avaient l'habitude déjà de commercialiser ces produits-là pour aller au Nigeria, transporter ces hydrocarbures-là de façon informelle et amener ça à la SONIDEP. Mais entre-temps, puisqu'ils ont cette possibilité-là de le faire, également, ils transportaient pour eux-mêmes. Quand je disais tout à l'heure que l'histoire des hydrocarbures oscille entre l'informel et l'informel, c'est effectivement de ça qu'il s'agit. Mais à partir des années 90, il y a eu également ce qu'on appelle licence-vente libre. Licence-vente libre, c'était des autorisations que les préfets et les sous-préfets, les secrétaires généraux, etc., donnaient à des individus également pour exporter ces hydrocarbures-là.
Pour eux-mêmes
et pour peut-être certaines sociétés. Maintenant, à partir de 2011, la SORAS a été créée. Mais même avec la création de la SORAS, vous avez compris que les choses ont évolué. Avec que les acteurs ont développé d'autres stratégies pour évoluer également, non seulement dans le formel, mais également dans l'informel. Parce qu'il y a les systèmes de transvasement. C'est-à-dire que les citerniers qui transportent les hydrocarbures de la SORAS, tout au long de leur parcours, ils font ce qu'on appelle les transvasements pour enlever une petite quantité des hydrocarbures pour vendre avant de se venir à leurs besoins.
Sadat Iliada Malam, comment expliquez-vous le développement croissant de la fraude des hydrocarbures ?
Je remercie le studio Kalangou et je remercie aussi Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'être dans ces studios. Nous avons toujours été un pays importateur des hydrocarbures jusqu'aux années 2000, n'est-ce pas, notamment en 2011 avec l'ouverture de la raffinerie des Zender. L'État a toujours eu le monopole de ce secteur-là en ce qui concerne l'importation. Et puis les prix aussi des hydrocarbures, c'est l'État qui a ces monopoles-là. Donc ce qui a fait que on constate effectivement qu'on n'arrive pas, depuis que le Niger est devenu un pays producteur de pétrole, on n'arrive pas à imposer la consommation du produit national. Et que quand vous prenez une grande partie, moi je dirais plus de la moitié de notre consommation provient jusqu'à présent de l'extérieur. Et c'est à travers ces systèmes frauduleux que cette consommation-là arrive à être satisfaite en grande partie. Il y a aussi cette question des prix, à mon avis, qui encourage, n'est-ce pas, la fraude. Parce que c'est un prix plus abordable que les prix qu'on nous met. Et toujours, c'est la SONDEP et l'État. Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, les prix des hydrocarbures, quand vous allez prendre la structure des prix, elle est due à un certain nombre de facteurs liés aux marges bénéficiaires et à certaines fiscalités qui font que les prix coûtent excessivement cher du produit national. Donc, de façon générale, cette fraude est encouragée, à mon avis, par la mauvaise gouvernance de ce secteur, par l'incapacité de l'État à lutter contre la fraude des hydrocarbures, d'abord à travers les institutions qui sont chargées de ça, mais aussi à travers son incapacité à créer une concurrence entre les produits fraudés et les produits nationaux.
Docteur, comment expliquer l'ampleur de cette activité malgré les risques qui l'entourent, l'interdiction des autorités et les saisies opérées régulièrement?
La plupart des acteurs qui pratiquent cette activité-là sont des jeunes. Et nous sommes dans un contexte d'insécurité. Et que ces jeunes-là n'ont rien à faire. Ce sont des jeunes généralement déscolarisés. C'est vrai, il y a une certaine frange infime de jeunes qui ont certaines qualifications scolaires. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Puisqu'il y a une activité qui est facile à pratiquer. Parce que vous avez la possibilité d'aller voir quelqu'un à côté et vous lui demandez de vous donner un bidon de 25 litres. Après, vous allez lui faire un versement. Ça, c'est possible de le faire. L'autre facteur, c'est que nous sommes dans une position où la ville de Zender fait frontière pratiquement avec le Nigeria. Et il y a un certain nombre de facteurs qui facilitent, évidemment, cette commercialisation-là. Quand vous partez, par exemple, au Nigeria, la population du Niger ou la population des Zander et la population du Nigeria, ils parlent effectivement la même langue. Donc, ils se considèrent comme pratiquement le même peuple. Donc, ceux qui sont au niveau de la frontière, ils partagent pratiquement la même histoire, la même culture, etc., etc. Donc, c'est plus facile de pratiquer cette activité-là. Troisièmement, c'est que nous sommes dans une position où, historiquement, il y a ce qu'on appelle le commerce transsaharien. Donc les gens sont habitués d'aller à Kano et revenir. Ce n'est pas seulement les acteurs du Niger qui profitent. Il y a également les acteurs du Nigeria qui profitent. Parce que même si on interdit les gens d'aller prendre ces produits-là au Nigeria, ce sont eux-mêmes qui amènent les produits. Et il y a surtout ce qu'on appelle la caution sociale. Parce que du point de vue social, l'activité est légitime.
Mais elle est entourée de risques.
Elle est entourée évidemment de risques. Mais souvent, devant certaines réalités, il y a ce qu'on appelle, comme l'a dit un autre para, le risque là est amorti. Donc vous voyez, ça veut dire que les jeunes là, en réalité, s'ils font la balance entre les situations précaires dans lesquelles ils sont et les risques qu'ils encourent de l'autre côté, vaut mieux qu'ils pratiquent l'activité là que de rester dans des situations compliquées.
Nous allons à présent écouter un son de cette activité réalisée ici à Zender et dans lequel certains témoignages sont recueillis et de la part des vendeurs et de la part des consommateurs.
On fait ce commerce parce que nous sommes des pauvres et nous n'avons pas assez de moyens pour notre survie. Parfois on gagne 5 000, parfois 7 000 et quand il y a une grande vente, on gagne jusqu'à 10 000. Avec ces bénéfices, on nourrit nos familles et on prend soin de nos proches. C'est comme ça on gère.
Là où vous me voyez, je vais prendre 3 litres à 4. Nous achetons ce carburant sur la rue à seulement 275 francs. Mais si nous allons au niveau des stations, ils nous vendent ça plus de 500 francs, donc le double. C'est pourquoi nous préférons l'acheter ici. Certes, personnellement, je préfère l'acheter au niveau des stations, mais le problème, c'est plus cher.
Sarat, il y a un malheur de la société civile. Quelle est la réaction? La question du prix et la facilité d'accès ressortent. Comment appréciez-vous ces deux raisons avancées?
La pauvreté est un facteur déterminant, effectivement, de cette activité. Moi, je trouve que c'est tout à fait légitime parce que, de toutes les façons, aujourd'hui, si on arrête cette consommation, des produits fraudulés, on va à la pompe. Il faut vous attendre à une hausse des coûts de la vie. Le Niger que tu vois, c'est un pays enclavé. C'est un pays où l'accès des produits est déjà un problème du fait, tu vois, de mauvais état de nos routes. Mais si encore les prix des hydrocarbures vont intervenir, moi je suis convaincu que ça va amener une hausse vertigineuse du coût de la vie. Donc pour moi, c'est tout à fait légitime qu'aujourd'hui notre société cautionne ce genre d'activité parce que c'est ce qui leur facilite d'accéder. Et quand vous prenez le système de vente formelle, il est pratiquement impossible aujourd'hui dans certaines régions ou dans certaines zones comme Tasker ou Belbeji d'accéder au dispositif légal, notamment une station.
Oui.
On n'a pas pris les dispositions pour les faire. Et que les produits frauduleux peuvent facilement arriver au niveau de ces zones-là. C'est ça. L'État aussi est obligé de l'accepter comme tel. Sinon, il sera obligé de toucher au deuxième aspect de cette interview-là, notamment la question des prix. C'est pourquoi nous avons toujours dit qu'on ne peut pas faire face à cette question de façon efficace tant qu'on n'agit pas sur les prix.
Le consommateur a évoqué la question de la qualité. Il dit qu'au niveau de la station, il y a plus de qualité.
Oui, au niveau de la station, il y a plus de qualité. Ça, c'est évident. Mais c'est que sûr, nous sommes habitués à cette consommation-là. Et aujourd'hui, les jeunes, du fait de cette habitude-là, ils vont te dire qu'ils ne connaissent même pas les produits de la... comment on appelle ça? Et aujourd'hui, ce qui est flagrant, c'est que même l'administration publique, même les ONG consomment au niveau de la vente illégale et qu'on fait des gymnastiques. Et même si on arrive à ajuster les prix, je ne pense pas qu'aujourd'hui, la quantité de notre production, de notre raffinage, de notre capacité de raffinage, si on parlait de 7000 barils dans les années 2008, aujourd'hui, ça, les choses ont évolué, la consommation a augmenté, je suis convaincu. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ça n'a pas dépassé ça? Est-ce qu'aujourd'hui, la quantité raffinée au Niger, en dehors de ravitailler les besoins intérieurs, elle doit aussi concerner l'exportation? Donc, vous voyez, il serait difficile, même du point de vue de ce que nous avons, les 7000 barils là. Ça, c'est une étude de 2007 ou 2008.
Et ça, là, c'est sur la base de ce qu'ils consomment régulièrement au niveau des stations.
En acceptant tous ceux qui ne sont pas habitués à la consommation à la station. Donc, vraiment, ça, là, les chiffres là qu'on avance de 7000 barils, c'est un chiffre théorique. Et que même théoriquement, aujourd'hui, même la consommation est formelle, je suis convaincu que ça a augmenté. Parce que le Niger a un certain nombre de dispositifs. Quand vous prenez, avant, il n'y avait pas des trucs comme Goribanda. Aussi réellement, on va parler, les 20 000 barils là raffinés au Niger ne peuvent pas suffire. Donc vraiment, même si on agit sur les prix, il serait extrêmement difficile d'amortir les prix et de les réduire à la concurrence de ce que nous avons comme produits frauduleux pour détourner, si vous voulez, les consommateurs verts, parce que c'est une question de marché, quoi. C'est les plus offrants. Chacun va aller vers les plus offrants. Et la question de la qualité, là, elle est théorique ici au Niger, même au niveau de l'administration publique. Malheureusement, on consomme. Moi, j'ai vu des préfets des départements qui consomment au niveau donc des... Et quand j'ai posé la question, effectivement, le préfet m'a posé cette question de disponibilité de la raffinerie chez lui, qui fait qu'il est obligé de consommer chez le fraudeur.
D'accord. Docteur Issouf Issa, même question pour vous. Quelle réaction vous suscite ce son?
La question du prix, c'est l'un des facteurs déterminants, les prix différentiels. Parce que, comme vous l'avez dit, le Nigérien, c'est quelqu'un qui vit de jour au jour. Donc, pour lui, la question de qualité ne lui intéresse pas pour un devis. Et je crois que c'est ce qui fait en sorte que, comme l'avait dit Sadat, que tout le monde est devenu fraudeur. Parce que les consommateurs savent bien que cette commercialisation-là est interdite par la loi. Le vendeur, la plupart d'entre eux savent que cette commercialisation-là est interdite par la loi. Et pourtant, on le fait. Moi, au cours de mes recherches, j'ai pris même les photos, si vous regardez dans ma thèse, les photos même des agents de répression. Quand je dis les agents de répression, ce sont les FDS qui se ravitaillent eux-mêmes au niveau de vendeurs frauduleux. Vous voyez, même la douane, si vous voulez. Vous avez vu, il y a une image là qui a beaucoup circulé. C'est de la photo d'un douanier qui était en train de consommer de la forêt de Jésus-Carvier au niveau de vendeurs frauduleux là. Donc la question du prix là mise beaucoup. Et il y a la question même de la disponibilité. Même dans la ville de Zander, si vous regardez bien, vous faites l'observation, c'est à partir de 2012 et 2013 que la plupart des stations ont été créées. Ces stations-là, la plupart d'entre elles ne fonctionnent pas aujourd'hui. Parce que tout simplement, il y a une concurrence, si je peux le dire, déloyale de l'autre côté, de la part de vendeurs frauduleux qui vendent à un prix vraiment acceptable selon peut-être la bourse des uns et des autres. Même ceux qui achètent là, ce sont les ONG. Maintenant, la question de facilité, c'est tout à fait normal. Je suis à l'extrême de la ville de l'autre côté là. Je suis sorti puisque c'est de consommation de jour au jour. Bon, je vois quelqu'un qui vend à côté là, où j'ai plusieurs possibilités. J'ai la possibilité d'acheter à crédit. Mais je ne peux pas aller au niveau des stations où dans les représentations sociales des uns et des autres, la quantité d'un litre n'est pas équivalente à celle qui est consommée au niveau de la rue. Dans la rue, j'ai même la possibilité de choisir. Je peux dire que prenez-moi l'autre. Je ne vais pas ça là, c'est pas bien rempli. Mais au niveau des stations, les gens ont tellement cette représentation sociale selon laquelle la quantité n'est pas tout à fait pleine. Une partie là, c'est de l'air. Donc c'est normal que les gens préfèrent aller vraiment acheter des produits au niveau de vendeurs.
À ce niveau, il y a des inconvénients même sur le moteur.
Oui, il y a des inconvénients, mais les gens ne vont pas miser sur ça. Ils pensent que dans tous les cas, d'ici là, ils vont avoir les moyens pour évidemment renouveler les moyens de transport.
Ça date, il y a madame de la société civile. Pourquoi, selon vous, une ruée autour de cette activité pleine de risques?
Dans les reportages que vous avez mis, un des vendeurs l'a expliqué. C'est d'abord la pauvreté. Les gens n'ont pas d'autres activités. Aujourd'hui, la plupart des jeunes s'adonnent à la vente ou bien à la fraude elle-même, c'est-à-dire au trafic, au transport des hydrocarbures. Donc les gens, ils voient que c'est une opportunité d'emploi qui leur est créée et qui leur permet facilement de gagner des dividendes et d'investir aussi. Parce que moi, j'ai vu beaucoup de ces gens-là qui ont y investi. Donc malgré ça, je vous dis que le marché est ouvert. C'est la loi de l'économie, c'est comme ça. C'est la loi de l'offre et de la demande. S'il y a une demande, il y a une forte demande en consommation et que les gens sont là, ils n'ont rien à faire. Quand tu as un petit revenu ici chez toi, tu arrives à faire des épargnes en tant que fonctionnaire. C'est les fonctionnaires qui font des épargnes pour acheter des véhicules de loi. Ou bien c'est quand vous avez un petit frère qui ne fait rien pour le soulager. Vous lui créez cette activité qui est rentable. Et les gens arrivent vraiment à s'en sortir là-dedans.
Donc mais la cohabitation de ce produit avec la population, c'est un grand risque.
Effectivement, c'est un...
Vous amenez des bidons d'essence dans...
Pas les conditions, la cohabitation avec la population en ce qui concerne les installations de vente, quand vous prenez, c'est dangereux, mais aussi les conditions de transport. De ces produits-là sont des conditions extrêmement dangereuses. Donc, c'est une activité dangereuse qu'on pratique et qui est réprimée, qui est passible de poursuites pénales même contre des personnes pour fraude. Donc, vraiment, c'est des activités illicites, des activités illégales, mais des activités qui ouvrent des opportunités que les jeunes n'ont pas eues. C'est pourquoi cette question de mettre, investir les revenus, les dividendes qu'on gagne dans cette affaire-là, dans la production de pétrole, on gagne de l'argent. Donc vraiment, on doit songer à récupérer cette jeunesse-là vers d'autres activités peut-être plus sécurisées, plus prometteuses. Nous sommes dans un pays où la grande partie de cette jeunesse-là ne fait rien et nous sommes dans un contexte marqué par l'insécurité qui attire de plus en plus de jeunes. Donc aujourd'hui, même pour l'État, cette activité, je suis convaincu, constitue en réalité une sorte de résilience vraiment à la radicalisation et de la jeunesse dans ce contexte de terrorisme.
Nous allons à présent écouter le gouverneur de la région de Zender sur la prolifération de cette activité pleine de risques, je le souligne, après un accident mortel. Nous le suivons.
La fraude, c'était une machine de destruction de l'économie nationale. Lorsque nous avons une entreprise nationale qui produit un certain produit avec des conditions de production difficiles parce que nous sommes un pays enclavé et que d'autres pays qui ont des conditions plus souples de production produisent, si quelqu'un vient par la fraude faire introduire le même produit que nous produisons, ça veut dire que nous, nos entreprises, sont appelées à fermer. La fraude, c'est une machine de destruction de la santé de la population. C'est à travers la fraude que beaucoup de produits psychotropes, les tramadol, les cannabis, les hashish, rentrent dans notre pays. La fraude, c'est un facteur de déstabilisation de la sécurité nationale. Parce que c'est à travers la fraude que beaucoup d'armes qui sont utilisées pour commettre des crimes, aussi bien dans les villes que dans les campagnes, sont introduites. Sans oublier tous les accidents que les fraudeurs sont en train de causer sur nos routes. Comme vous pouvez le constater, la fraude est un grand mal, surtout au niveau de notre région. Et c'est pourquoi nous avons jugé utile d'arrêter cela. Voilà une activité qui est interdite par la loi. Mais certains veulent défier la loi pour pouvoir l'imposer. Ce qu'on dit à propos de ces activités-là, les gens prennent l'alibi que, ah, voilà là une voie où des jeunes sont en train de trouver du travail, on est en train de toucher cette activité. Mais ils sont combien? Peut-être pas plus de 2000 qui sont dans cette activité. Mais tous les autres jeunes qui sont là et qui font d'autres activités légales, comment eux, ils ne peuvent pas se redéployer dans les activités légales? Ils préfèrent défier la loi. Je demande à ce que la population comprenne que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour leur intérêt. C'est pour l'intérêt de la jeunesse.
Sarah Tiliad Amalam, quelle réaction?
Je suis d'accord avec lui quand il dit que la fraude, de façon générale, participe de la destruction nationale. Effectivement, aujourd'hui, la fraude partout dans le monde est une menace à l'économie d'un pays. Surtout lorsque les pays-là arrivent à produire les mêmes produits qui sont fraudés. Donc ça va créer une mévente des produits nationaux et les entreprises nationales qui sont chargées de la production vont disparaître. C'est comme ça, logiquement. Et effectivement, la fraude ouvre la voie à toute forme de trafic. Là aussi, je suis d'accord avec lui. Mais pour ce qui est de la fraude des hydrocarbures et de l'opportunité d'emploi que ça offre à la jeunesse, je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui pour trouver de l'emploi à cette jeunesse-là?
Mais ils profitent.
On ne fait aucun effort pour employer notre jeunesse. Notre jeunesse est obligée soit de partir, de migrer vers l'extérieur et là aussi de s'exposer à tous les risques possibles ou bien de s'adonner à des petites activités comme la fraude, comme les activités des motos-taxis. Là aussi, quand vous allez rentrer dans ces domaines, vous allez trouver que la légalité n'a pas toujours été démise. C'est l'informel qui domine. Et puis, quand il parle de savatier, mais depuis quand on a créé la SORAS, est-ce que la SORAS a fermé? Elle n'a jamais fermé parce que je t'ai dit que ça ne s'applique pas à la conception que nous faisons en matière de notre économie de pétrole. Moi, je ne suis pas d'accord avec eux. Que vous mainteniez un prix qui est inaccessible et que quand vous allez l'imposer, vous allez créer des conséquences économiques même parce que vous risquez d'arrêter la production. Aujourd'hui, quand vous dites à un agriculteur de consommer au niveau de la station pour faire fonctionner son moteur ou bien pour faire fonctionner les tracteurs dont on encourage d'utiliser. Les gens ne peuvent pas supporter le coût à la pompe. Et aujourd'hui, s'il s'agit d'évacuer une femme qui est malade, le coût des hydrocarbures est toujours à la charge de ces malades-là. Mais les malades-là ne vont pas vous dire qu'ils préfèrent aller, alors que ça, c'est le rôle de l'État. Et les gens-là ont refusé de diminuer les prix. Et je suis convaincu que c'est des discours politiques de me dire que la douane est là pour réprimer cette activité.
Mais vous êtes d'accord que des armes et de la drogue sont introduites à travers cette activité de fraude?
Bon, vous savez, l'introduction de... Toutes les activités, même les activités...
Même la vente du riz.
Donc on avait légalisé les combats là. C'est une activité légale.
Alors aujourd'hui, nous sommes...
C'est des produits où on profite pour mettre de n'importe quoi dedans. Moi, je n'ai rien contre ceux qui font combat, mais ceux qui le font à une échelle beaucoup plus internationale. Avant-hier, vous avez vu, non? Un camion qu'on avait stoppé à Ayuru, sur lequel on a vu des produits destinés
à des terroristes.
Oui, effectivement, justement, les hydrocarbures fraudés, là, partent, si vous voulez, ravitailler également les terroristes.
Oui.
C'est raison de plus pour l'interdire.
C'est raison de plus pour l'interdire, mais je te dis que L'interdiction de ça là doit en tout cas requérir un certain nombre de préparations. Je suis convaincu qu'en dehors de toutes les personnes qui se trouvent dans les circuits, y compris les consommateurs, mais vous allez aussi toucher les consommateurs non directs. Parce que l'activité des pétroles là que vous voyez, c'est une activité qui est très sensible dans l'économie d'un pays. Aujourd'hui, si toutes les stations du Niger ferment, vous n'allez pas sentir un impact sur l'économie de ces pays-là. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, il suffit de voir que les produits au niveau des vendeurs irréguliers a augmenté. Vous allez voir que ce que ça provoque en termes de conséquences sur l'économie. Parce que ça influe sur les transports, je t'ai dit. Ça influe sur la production. C'est l'énergie. C'est essentiel. Donc, si vraiment on veut lutter contre la fraude, moi, je pense qu'on doit avoir une détermination politique globale, quoi, qui va prendre en compte tous les aspects liés au caractère stratégique des hydrocarbures dans l'analyse pour produire une politique d'hydrocarbures ou de l'énergie au plan national qui va permettre en sorte effectivement de pallier à cette question. Mais je t'ai dit qu'aujourd'hui, si tu touches à la fraude des hydrocarbures, si tu empêches ça, je suis convaincu que demain, tu vas voir qu'il y aura un bouleversement économique, une hausse des prix des produits, une inaccessibilité à certains services. Parce qu'on n'est pas préparé pour faire ça, pour imposer, pour interdire la fraude. Là où tu n'as pas des stations qui couvrent. Et même les stations aujourd'hui dont il a parlé tout à l'heure, là, la plupart de ces, c'est pour avoir la licence, pour avoir le bon de livraison au niveau de la SORAS. La SONDEP ne peut pas te donner un bon si tu n'es pas...
Ils ne transportent même pas d'air de la SORAS, voilà. La plupart d'entre eux.
Oui, mais c'est la SONDEP, même à la SORAS, ils ont un guichet là-bas. C'est eux qui s'occupent de la vente. Mais maintenant, je crois que dans les 13% là, la vente extérieure, il y a eu une gymnastique. L'idéal, c'est de combattre la fraude. Mais malheureusement, le contexte socio-économique, moi, je trouve qu'il n'est pas favorable à une interdiction formelle et catégorique de cette activité frauduleuse.
Docteur Issa Issoufou, connaissez-vous des textes qui interdisent cette activité?
Il y en a des textes, il y en a même beaucoup de textes. Si vous voulez, à commencer par le texte d'ordre général. Je sais que même dans la Constitution, on dit que les Nigériens sont égaux devant la loi. De là même, on comprend de façon explicite que la fraude des hydrocarbures doit être interdite. Parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un de... On interdit la fraude, la commercialisation des hydrocarbures à quelqu'un de Niamey et qu'on laisse à quelqu'un de Maradi ou des Indères exercer cette activité-là. Et il y a également ce qu'on appelle le code de procédure pénale qui interdit carrément à son article 2 et l'article 69, je crois, la fraude des hydrocarbures. Il y a également le code douanier également qui interdit la fraude des hydrocarbures. Il y a également, et je crois, une loi spécifique qui lutte contre la fraude des hydrocarbures. Donc il y a un certain nombre de dispositifs juridiques qui interdit cette fraude des hydrocarbures là au Niger. Mais ce n'est pas ça peut-être qui compte, parce que dans tous les domaines il y a des lois. Mais le fait d'appliquer la loi, c'est ça qui cause le problème. Les acteurs qui sont impliqués dans cette commercialisation là, c'est pratiquement tout le monde, parce que c'est plusieurs réseaux. Il y a au moins 3 réseaux de fraude des hydrocarbures. Il y a ce que je considère les réseaux visibles. Les réseaux visibles, c'est quoi? C'est tous les acteurs-là qu'on voit de façon visible dans la pratique de cette activité-là. Le vendeur détaillant, les grossistes, parce qu'il y a de ce qu'on appelle les grossistes, les semi-grossistes, les transporteurs, et même les agents de force et de défense et de sécurité qui sont sur la route. L'avait dit tout à l'heure, ça date. Parce que les agents-là, ils voient les gens se la transiter à travers leurs différents postes, en leur donnant quelque chose. Ils donnent de l'argent au niveau de certains postes. Souvent, ils font des dons, des bidons d'essence. Donc vous comprenez qu'il y a la loi qui est là, mais les forces, il y a tout un certain nombre de réseaux qui favorisent cette activité-là. Il y a également les réseaux invisibles, qui est composé de toute cette chaîne-là que je viens de décrire, mais également des acteurs qu'on ne voit pas, qui sont sous l'ombre. En réalité, ce sont généralement ceux qui financent l'activité-là. Et parmi ceux qui financent ces activités-là, il y a des fonctionnaires de l'État. Il y a également ces mêmes forces de défense et de sécurité. Il y a même les autorités qui achètent des véhicules. Et ils donnent à ces fraudeurs-là pour pratiquer cette activité. En contrepartie, le fonds de versement à la fin de chaque semaine ou à la fin du mois, selon l'arrangement. Donc vous comprenez, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué dans notre société. Et pour l'interdire, si vous voulez comprendre...
Oui, justement, j'aimerais savoir le rôle également des agents de contrôle de répression.
Pour interdire ça là, je pense que ce n'est pas une chose aisée. C'est extrêmement compliqué. Il faut un certain nombre de préparations préalables. Et je ne pense pas si au stade actuel, l'État a créé des alternatives pour que le gel abandonne ces activités-là. Il y a eu des expériences dans certains pays. Par exemple, le Bénin. Ils ont fait l'expérience de reconversion, si vous voulez. Ils ont créé un système d'insertion socio-professionnelle de ce jeune-là dans d'autres activités. Mais ce n'est pas possible. Parce que c'est lui qui tu fais quitter une activité. Tu lui balances dans une autre activité. Il va faire la comparaison. Qu'est-ce qu'il va gagner ou qu'est-ce qu'il gagnait dans l'activité qu'il a quittée et qu'est-ce qu'il peut gagner dans l'activité qu'il va pratiquer. Et aujourd'hui, dans la ville de Zander-là, selon beaucoup d'études, il y a ceux qui réalisent des millions de francs CFA en termes de chiffre d'affaires. Imaginez, est-ce que l'État est à mesure de créer une alternative ou des alternatives à tout ce jeu-là, d'abandonner cette activité-là pour aller pratiquer une autre activité? Il y a ceux qui gagnent plus de 20 millions de francs CFA par mois en termes de chiffre d'affaires. Donc vous voyez, l'État, je pense qu'il est déjà en retard par rapport à la restructuration de cette activité-là. L'État est largement en retard. C'est pourquoi vous comprenez que les gens sont en train de défier l'État.
Mais l'État ne peut pas donner du travail à tout le monde au Niger. Et les gens doivent normalement s'inscrire dans la légalité.
Oui, ils doivent s'inscrire dans la légalité, mais comment? C'est ça la problématique. Quelqu'un qui a grandi et qui voit déjà l'activité était en train de se pratiquer. Parce que même à travers le système formel, je l'avais dit tout à l'heure, que ce n'est pas totalement du formel qui est en train d'être pratiqué. Donc c'est difficile à ce qu'on oublie. Puisque quand quelqu'un est dans une difficulté, il n'a pas besoin de la légalité. Surtout quand c'est cautionné par la société. Je vais juste avoir quelque chose pour manger. Comment tu vas? Ça, c'est une logique sociale. Comment tu vas m'empêcher d'exercer cette activité-là?
Mais ici, le risque n'incombe pas à la personne qui exerce le métier seulement. C'est tout l'entourage. Par exemple, des bidons d'huile qui sont stockés dans une maison.
C'est pourquoi j'ai dit quelque part, est-ce que la fraude des hydrocarbures est un obstacle au développement? Parce que ce qu'on regarde le plus souvent, et même ce que j'ai entendu à travers l'interview du gouverneur, c'est les côtés négatif de cette activité. Mais il n'y en a pas que le côté négatif. Il y a le côté positif. Je ne suis pas en train de dire que c'est bon de continuer. Ce qu'il a dit, c'est dans les principes. C'est l'idéal. L'idéal serait à ce qu'on puisse formaliser l'activité. L'idéal serait à ce qu'on puisse interdire la fraude des hydrocarbures. Mais il faut voir, ce n'est pas l'idéal. Ce n'est pas ce qui est dans le texte. C'est le contexte. Les contextes sociaux, culturels, les réalités dans lesquelles nous sommes. La seule question qu'on peut poser, qui peut causer beaucoup de problèmes, est si aujourd'hui on interdit la fraude des hydrocarbures de façon totale, quel sera l'avenir de tous ces jeunes-là qui pratiquent cette activité? Je suis sûr que l'État est dans un dilemme entre interdire la fraude des hydrocarbures. Ils le savent, hein? Ce sont leurs enfants qui le font. Je connais une histoire pareille où l'enfant d'un directeur régional pratiquer cette activité-là et il était décédé même dans la fraude des hydrocarbures ici à Zander. Si l'État interdit aujourd'hui la fraude des hydrocarbures, comment l'État va faire avec tous ces jeunes-là? Est-ce que l'État a des moyens pour insérer?
Mais l'État n'est pas obligé d'embaucher tout le monde.
Mais l'État n'est pas obligé d'embaucher tout le monde, mais ça fait partie de l'obligation de l'État. Dans tous les cas, ce n'est pas tout le monde aussi qui pratique la fraude des hydrocarbures.
D'accord.
Et dans tous les cas, c'est parce qu'ils trouvent et pensent que c'est ça qu'ils peuvent faire. Il n'y a rien à faire, quoi. En fait, il n'y a pas d'autre perspective. En réalité,
ça date
jusqu'en 2010 au Niger, c'était à 476 francs, si je ne me trompe pas, le prix du litre, même à la pompe. Et aujourd'hui que le Niger est devenu producteur, on aurait dit...
La subvention a été suspendue. Hein?
Pour que les prix, au moins pour maintenir une certaine péréquation, ouais, au moins la consommation nationale.
D'accord.
Que les citoyens, s'il sait qu'aujourd'hui il peut trouver 10 litres à 300 francs au moins... On peut lui parler de combattre la fraude.
Docteur Issoufou, vous disiez tout à l'heure que les jeunes font des chiffres d'affaires des millions. À quel prix pensez-vous que ces jeunes-là peuvent laisser cette activité? Et comment faire en sorte qu'elle profite largement au développement local?
C'est très simple. Si on veut que les jeunes abandonnent d'eux-mêmes, sans passer par les moyens de répression violente, comme l'État a déjà essayé à travers l'opération coup de poing, il a échoué. Mais je crois que la meilleure façon, c'est de réduire les prix. Peut-être au même prix qu'on vend là au niveau des fraudeurs sur les stands des détaillants là.
Alors, en quoi la fraude des hydrocarbures constitue un défi notoire pour les autorités publiques?
C'est un défi notoire, évidemment, pour les autorités, parce qu'ils sont incapables d'interdire cette fraude-là. Ils le voient, ça se pratique même à Niani. Le Niger même a eu une grande chance que des milliers de jeunes exercent cette activité-là. Sinon, avec l'extrémisme violent, avec la question du terrorisme, ça serait un très grand risque.
Sadat, est-ce que la vente frauduleuse des hydrocarbures chez les jeunes de la ville de Zender est un obstacle au développement?
Oui, non. Oui, c'est un obstacle au développement quand on considère le caractère illégal de cette activité et les risques aussi qui est lié à cette activité. Non, parce que nous avons suffisamment de problèmes de chômage aujourd'hui dans la ville de Zender qui, je suis convaincu que cette activité a effectivement permis à beaucoup de jeunes d'être récupérés, de ne pas se radicaliser.
L'État ne profite pas de cette activité.
L'État profite.
Mais aujourd'hui, il n'y a pratiquement aucune taxe.
Oui, mais quand même, ce qu'ils font dans les affaires-là, comme il dit, avec les produits nationaux, ils font des affaires.
Mais ça ne va pas dans les trésors du public.
Ils ne peuvent pas satisfaire les besoins, tout dans la mesure où même ce qui est raffiné de façon officielle ne rentre pas de manière transparente dans les trésors publics. Comment voulez-vous qu'il y ait quelque chose de...
Les opérateurs qui ont des stations-service sont dans la légalité parce qu'au moins l'État profite d'eux. Il y a des taxes qui sont payées. Mais ces gens-là, malgré leur nombre, ne versent rien du tout à l'État.
Oui, mais même les stations.
Mais la question du développement n'est pas seulement l'État.
Mais l'État... Mais
la population aussi.
Les stations versent d'abord pour l'État.
Bien sûr, les stations versent.
Il y a eu des redressements fiscaux qui ont relevé des manquements par rapport à des opérateurs bien connus. Je ne veux pas revenir là-dessus. Il faut avoir une politique, moi je te dis, beaucoup plus globale. C'est la question qui va permettre, pourquoi pas, d'améliorer au lieu de faire du pipeline pour faire sortir du brut. Pourquoi ne pas agrandir la capacité de notre raffinerie pour que nous puissions produire beaucoup pour satisfaire d'abord les besoins nationaux, parce que j'ai dit que je ne suis pas d'accord avec les 7000 barils-là. Même les 20000 barils, moi je ne pense pas que aujourd'hui
si c'est clairement respecté,
sans satisfaire donc les besoins. Donc il faut accroître la production et il faut rendre ces produits-là disponibles partout. Et il faut aller vers la politique.
Nous allons revenir aux solutions. Docteur Issa Youssoufou, quel est le manque à gagner pour l'État aujourd'hui autour de cette activité-là?
Pour comprendre le manque à gagner, il faut comprendre la structure du prix. Ce manque à gagner-là doit être évalué à travers les prix par litre qu'on achète au niveau des stations-service. Au moins, moi, je sais que si un consommateur achète un litre au niveau de la station-service, il paye au moins deux taxes. Il y a la TVA. Il y a une taxe qu'on appelle TIPP. C'est une taxe liée aux produits pétroliers. Ces deux taxes-là, je crois que ça va jusqu'à 100 et quelques francs CFA
par litre.
Donc, si on veut évaluer pour comprendre les gaps, il faut transposer ces taxes-là au niveau des litres des vendeurs fraudeurs. Selon notre recherche, en moyenne, chaque vendeur vend au moins 25 litres par jour ici à Zender. Ce qui équivaut probablement à 11 000, je crois qu'il y a 11 000 de francs CFA en termes de pertes par l'État sur chaque vendeur. Donc quand on évalue ça par mois, c'est plus de 300 000 francs CFA que l'État perd.
Si par vendeur.
Par vendeur. Mm. Donc si on évalue également par le nombre de vendeurs qu'on ne connaît pas, parce que statistiquement, on ne connaît pas leur nom parce que c'est informel. Donc l'État perd beaucoup en laissant peut-être cette activité se dérouler de façon informel.
Vous disiez dans un de vos écrits que cette activité sert de tremplin pour la population à faible revenu. En quoi alors constitue-t-elle un obstacle au développement?
Parce que tout simplement l'État perd. Financièrement, l'État également perd en termes de capital humain. Parce que beaucoup de jeunes meurent dedans, dans cette activité-là. Et même socialement, je crois qu'au cours de nos recherches, on a pu détecter beaucoup de jeunes qui ont abandonné l'école à profit de cette activité-là. Et deuxièmement, puisque vous avez l'école de plus en plus, ne garantit pas l'emploi, si vous voulez. Cette théorie du capital humain n'est plus valable peut-être dans notre société parce que justement on comprend qu'il y a certaines réalités qui ne sont pas conformes.
Sadat, vous avez déjà commencé à proposer des solutions. Quels palliatifs proposez-vous?
Quand je parle de politique en matière de ça, c'est pour prendre en compte tous les aspects. Les aspects sociaux, les aspects économiques, du développement qui sont liés à cette activité-là. Quand vous achetez au prix de l'assurance, qui est de 200 francs, ou je ne sais pas, ça ne dépasse pas 200 francs.
Ça n'atteint même pas 200 francs.
Il faut payer ce qu'il a dit, les taxes, la TVA, la TIPP, la taxe de l'énergie, il y a la marge bénéficiaire de la SONIDEP, il y a les transports.
Et la marge bénéficiaire de la société.
Donc vous voyez tout ça là, c'est ce qu'on augmente le prix des cessions là, pour obtenir le prix des hydrocarbures à la pompe. Donc vraiment, moi je pense qu'on peut faire économie de tout ça là, et qu'on puisse faire en sorte que ces mêmes détaillants là puissent directement s'abréver au niveau de l'assurance, en prenant peut-être des précautions, en améliorant l'environnement de travail. Donc vraiment, on doit aller vers cette politique des prix raisonnables.
D'accord, Sadat, merci. Je reviens à vous, docteur, et j'ai fini d'ailleurs par vous. Comment normaliser l'activité afin qu'elle puisse contribuer au développement des zones où elle est largement pratiquée et en même temps réduire les risques liés aux courses-poursuites?
Ça dépend du comportement de l'État. Si l'État aujourd'hui s'entête à garder sa position, à garder la structuration telle qu'elle est, de commercialisation et de politique de vente des hydrocarbures, il y a deux solutions impossibles. Je dis bien impossible. La première solution, c'est celle qui consiste d'interdire de façon formelle cette fraude des hydrocarbures. Alors que l'État doit mobiliser des agents de répression pour interdire la fraude des hydrocarbures sur l'ensemble du pays. Comme j'ai dit que c'est impossible, c'est que l'État n'a pas les moyens pour le faire. D'ailleurs, même en Afrique, c'est même difficile d'avoir un État qui peut de façon tout à fait complète contrôler son État. C'est un peu difficile. C'est pourquoi d'ailleurs vous avez le tourisme, etc., etc. Deuxième solution impossible, c'est celle qui consiste peut-être à réduire les prix au même prix que le vendeur la vend au niveau des stations.
Alors elle n'est pas impossible.
Elle est impossible pour le moment. Pourquoi elle est impossible? Parce que l'État déjà fait ce qu'on appelle un raisonnement entrepreneurial. Donc l'État n'est pas prêt d'ailleurs à réduire les prix et l'État n'a pas encore créé des alternatives pour ce jeu-là, comme on l'avait dit tout à l'heure. Maintenant, le deuxième niveau d'analyse qu'on peut faire, c'est qu'on va aller dans la logique selon laquelle c'est possible, peut-être, de chercher des solutions. C'est dans la mesure où l'État plaide. Parce que vous avez des vendeurs là, dans les rues de Zander et dans toutes les rues, peut-être, des villes du Niger. Les vendeurs là, ils acceptent même, de façon générale, à ce qu'ils donnent quelque chose pour qu'on les reconnaisse. Puisque le fait de prélever des taxes auprès d'eux est synonyme de leur reconnaissance.
C'est ça.
Maintenant, l'État ne peut pas le faire parce que l'État a ratifié avec un certain nombre de conventions, avec le BIT et d'autres organismes, de telle sorte qu'il ne peut pas formaliser ce genre d'activité. Donc la solution serait à ce que l'État plaide au niveau de ces organismes-là. Vous allez voir que lorsque l'activité là va être formalisée dans la ville ou au Niger de façon générale, ça va même être réduit.
C'est ça. Alors, c'est ici que prend fin ce forum. Nous avions discuté sur les enjeux socio-économiques de la commercialisation des hydrocarbures dans la région de Zender. On retient que la question de la fraude des hydrocarbures date de longtemps. Elle est surtout favorisée par le manque d'opportunités des jeunes, souvent non instruits. La question de la disponibilité et du prix différentiel fait sa floraison. Les conditions ne sont pas réunies actuellement pour l'interdiction stricte de cette activité car les stations-service ne sont pas disponibles n'importe où sur le territoire national. Il y a un manque à gagner pour l'État. Certes, dans cette activité, certains mécanismes doivent être envisagés pour embaucher ces milliers de jeunes. L'État doit également augmenter la production nationale des hydrocarbures et vendre le produit à un prix concurrentiel pour décourager les fraudeurs. Nous étions avec Dr Issouf Issa. Il est sociologue, il est expert des questions de la vente des hydrocarbures à Zender. Nous étions également avec M. Sadat Iliad Malam, acteur de la société civile, coordonnateur régional du MPCR Zender. Je rappelle encore que nous avons mené des démarches pour la participation de la direction régionale des douanes, de la direction régionale du pétrole et de la SONIDEP, mais sans suite favorable. C'est pourquoi nous tenons ce forum sans ces personnes qui auraient pu nous donner plus d'informations. Merci et au revoir.